on continue notre série sur le survol des 66 livres de la Bible. Nous sommes dans l'introduction au Nouveau Testament et nous avions vu lors des leçons précédentes qu'il y avait trois choses à considérer avant de commencer l'étude de chacun des livres du Nouveau Testament pour que notre étude soit éclairée, autrement dit. La première chose qui était nécessaire, c'était de faire une brève revision de l'ensemble des prophéties que l'Ancien Testament avait parlé de la venue de Jésus-Christ et les détails. Donc, on avait regardé ça dans la première leçon. La deuxième leçon, c'est qu'on a besoin de savoir aussi, c'est ce qui s'est passé entre la fin du dernier livre de l'Ancien Testament, qui était Malachie, où le Seigneur disait qu'il était pour envoyer un prophète, ou du moins le messager, qui était Élie. Il disait qu'il envoyerait Élie, mais dans le fond, il est venu Saint Jean-Baptiste. Et aussi, la troisième chose, c'est qu'on a besoin de savoir la situation historique des Juifs lors de la première venue. Donc, après qu'on ait fini aujourd'hui la période intertestamentaire. Donc, la période intertestamentaire, c'est la période qu'il y a eu après la fin de la fermeture de l'Ancien Testament. Et il y a eu une période de 400 ans qu'on a appelée les 400 ans de silence avant l'arrivée de Jésus. Donc, il y a eu 400 ans. C'est comme si le Seigneur ne parlait pas du tout, ni par les prophètes, ni d'aucune façon. C'est pour ça qu'on a appelé ça les 400 ans de silence. On avait regardé dans la première partie un petit peu la semaine dernière en quoi ça consistait la période intertestamentaire. On était rendu, ceux qui ont les notes, à la page 7. On était dans la révolte des Maccabées, qu'on appelle. Comme nous l'avions dit, la Palestine passa en 198 avant Jésus-Christ sous la domination des rois de Syrie, des Séleucides. Antiochus III, le Grand, mourut en 187 et fut suivi par Séleucus Philopator. À sa mort, son trône revint à un roi impudent et artificieux, comme il avait été prophétisé au chapitre 8 de Daniel, au verset 23, dont le nom devint synonyme de méchanceté. C'était Antiochus IV Épiphane, l'illustre. Le nouveau roi était un hellénisateur agressif et décidé à unir ses sujets en leur imposant les manières grecques. Dépouillé par les Romains des fruits de sa victoire au cours d'une campagne militaire en Égypte, il s'arrêta au retour à Jérusalem, le cœur plein de rage. Des troubles y avaient été provoqués par les agissements du souverain sacrificateur, et Antiochus était décidé à exterminer le judaïsme une fois pour toutes. Le temple fut mis à sac en 167 avant Jésus-Christ. Une statue de Zeus olympien érigée dans la cour sacrée et une truie offerte sur l'autel des holocaustes, comme Daniel, chapitre 11, verset 31, parle « l'abomination du dévastateur ». La première résistance sérieuse vint d'un prêtre âgé, Mattathias, de la famille des Asmonéens. Il tua l'officier syrien venu au village de Modène pour mettre à exécution les décrets Antiochus. Que les zélateurs de la loi et ceux qui veulent garder l'alliance me suivent, cria-t-il, avant de s'enfuir avec ses cinq fils dans les montagnes de Judée. De nombreux Chassidim le suivirent et il y eut bientôt une résistance organisée dans le pays. Quand Mattathias mourut en 166, le commandement échut à son troisième fils Judas Maccabée. Judas dit le marteau. Par une série de victoires presque incroyables, surtout si l'on songe que les Juifs ne s'étaient pas battus depuis plus de trois siècles, il repoussa les Syriens. Le 25 du mois juif de Chisleu, en 165 avant Jésus-Christ, il purifia le temple profané et rétablit le sacrifice quotidien à Jérusalem. Ce grand événement fut dès lors célébré chaque année par la fête de la dédicace, qui est une fête nationale. Nous la trouvons mentionnée dans l'Évangile de Jean, chapitre 10, verset 22. Il est aisé de comprendre les sentiments des Juifs, opprimés par les Romains, lorsque rassemblés autour de Jésus et excités par le souvenir de la délivrance obtenue par Maccabée, ils lui demandèrent « Jusqu'à quand nous tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. » Alors après ça, on parle du fils de Mattathias. Judas poursuivit la lutte contre la Syrie jusqu'à sa mort dans une bataille en 161 avant Jésus-Christ. Le commandement passa à Jonathan, le fils cadet, qui se retira au sud pour regrouper ses forces. Il eut le bonheur de prendre le commandement au moment où une grande confusion régnait en Syrie parmi les héritiers du trône. Aussi habile politique que son frère avait été habile guerrier, Jonathan comprit bientôt comment cette confusion pouvait tourner à l'avantage de son propre peuple. Les prétendants au trône de Syrie, Démétrius, qui avait eu la souveraineté effective depuis 162, et Alexandre Ballas, qui affirmait être le fils d'Antiochus IV, rivalisèrent pour obtenir l'appui du chef Maccabée. Alexandre Ballas lui offrit une croix d'or et un manteau de pourpre et proposa de le nommer souverain sacrificateur du peuple. Il faut réfléchir à la signification d'une telle offre. Quelques années plus tôt, Jonathan était un fugitif se cachant dans les montagnes. Maintenant, on lui offrait la plus haute fonction religieuse du pays, fonction pendant près de 13 siècles, avait appartenu à la famille d'Aaron. Et cette lignée fut mise de côté sans même une protestation sur l'ordre d'un prince syrien, un étranger. En fait, la famille du souverain sacrificateur légal s'était discréditée par sa lâcheté pendant la révolte des Maccabées, et les fils de Mattathias étaient devenus, en toute évidence, les véritables chefs de la nation. N'était-il pas naturel, en conséquence, de faire de Jonathan l'Asmonéen le souverain sacrificateur? Les gens ont-ils pensé à l'ordre de Melchisédek lors de ce transfert de pouvoir? Beaucoup de Chassidim, notons-le, étaient loin d'être heureux du tour que prenaient les événements. Ils trouvaient que les idées de Jonathan sur l'indépendance politique dépassaient dangereusement les objectifs religieux des premiers jours. Plus que jamais, ces gens orientaient leurs pensées vers le passé, vers les hautes traditions et les splendeurs de la loi. Un abîme se creusait entre les prêtres et les scribes, dressés parfois en deux parties hostiles. Jonathan, cet homme habile, finit par se faire prendre dans un piège tendu par Trypho, général d'Alexandre Ballas, et fut mis à mort en 142. Simon, le dernier survivant des cinq fils de Mattathias, prit alors le pouvoir. C'était un bon souverain et son règne fut marqué par une prospérité croissante. Nominalement placé sous contrôle syrien, la Judée de son temps fut à peu près indépendante. La garnison syrienne, qui avait occupé pendant toute la domination syrienne, l'Acra, le temple fortifié, quitta Jérusalem. Le commerce se développa quand le port de Joppé passa sous le contrôle de Simon. La loi était honorée dans tout le pays. Jonathan avait été fait souverain sacrificateur par un prétendant païen. La situation fut régularisée et le sacerdoce héréditaire fut officiellement accordé à la famille des Asmonéens, en 140 avant Christ. La période prospère du règne de Simon prit fin quand il fut traîtreusement assassiné par son gendre Ptolémée en 135 avant Jésus-Christ. Maintenant, on parle des descendants des Maccabées. Un qui s'appelait Jean Hyrcane, lui a vécu entre 135, qui a régné entre 135 et 105 avant Christ. L'influence juive grandit encore quand le fils et successeur de Simon, Jean Hyrcane, devint souverain sacrificateur. Deux événements méritent alors notre attention. Les frontières juives s'étendirent vers le nord, le sud et l'est, et pendant la progression vers le nord, la ville de Sichem et le temple samaritain du mont Garizim furent détruits. La Syrie était trop préoccupée à l'époque de ses propres problèmes pour intervenir. On se rappellera que les exilés, à leur retour de Babylone, fiers de leur pureté raciale et de leurs prérogatives juives, avaient rejeté l'aide offerte par les habitants de Samarie, dont la race était impure. Cette opposition s'était transformée en une haine implacable quand un temple rival avait été construit sur le mont Garizim. C'est ce temple que détruisit Jean Hyrcane, et cet acte ne fit qu'augmenter l'abîme qui séparait les deux peuples. L'aversion des Juifs pour les Samaritains est bien connue des lecteurs du Nouveau Testament. On a un exemple dans l'Évangile de Jean, chapitre 4, verset 9. Quand la Samaritaine à Sychar dit au Seigneur Jésus, « Nos pères ont adoré sur cette montagne. » Elle parle du mont Garizim, sur lequel le temple rival se trouvait autrefois. L'autre grand événement de cette période fut la conquête et conversion forcée des Édomites à la frontière méridionale de la Judée. Une fois les Édomites conquis et incorporés dans la nation juive, ils devinrent les plus patriotes des Juifs. Par une ironie de l'histoire, les descendants de ces Édomites détestés qui avaient refusé le passage aux enfants d'Israël en marche vers la terre promise, on peut lire ça dans Nombre 20, versets 14 à 20, ont pris plus tard une immense importance dans la communauté juive. Nous avons déjà parlé des tendances hellénisantes du parti du souverain sacrificateur et de l'orthodoxie conservatrice des Chassidim. Avec le temps, deux partis distincts se formèrent. Ceux qui voulaient s'adapter aux circonstances, c'est-à-dire surtout ceux de l'entourage du souverain sacrificateur, la classe noble, prétendaient descendre du prêtre Zadok, furent connus sous le nom de Sadducéens, fils de Zadok. Les Chassidim se retirèrent dans un isolement toujours plus grand, décidés à bâtir une barrière autour de la loi. Ils furent appelés les séparés ou pharisiens. Le mot sadducéen s'applique à une classe, le mot pharisien à une secte organisée. Les deux noms jouent un rôle important dans le Nouveau Testament. Au début, Jean Hyrcane inclina plutôt vers les pharisiens, mais plus tard, il se joignit aux sadducéens. Deuxième nom à connaître, Alexandre Janet, qui a entre 104 et 118 avant Jésus-Christ. Jean Hyrcane mourut en 105 et eut pour successeur son fils aîné Aristobule, qui fut suivi, après un règne très court, par son frère Alexandre Janet. Cette période marque le déclin de la famille de Mattathias, jadis si noble. Alexandre, au cours de son long règne, fut cruel, ivre de conquête et dominateur. À un moment donné, son territoire dépassa les anciennes possessions des tribus. Mais il connut de continuels troubles intérieurs, particulièrement entre pharisiens et sadducéens, son propre parti. C'est à la fin d'une terrible guerre civile de cette époque que l'on parle, la première fois dans l'histoire juive de mort par crucifixion. À la suite d'une orgie impie à Jérusalem, Alexandre fit mettre sur des croix 800 parmi les principaux pharisiens. Un peu plus de 100 ans après la croix dominant les ruines des temps adressées en dehors des murs de cette même ville. Troisième chose à considérer, la guerre civile et la confusion entre 78 et 65 avant Jésus-Christ. Alexandre mourut en 78 avant Christ, et pendant quelques années, sa veuve Alexandra régna sagement dans une paix relative. Les principales difficultés vinrent de ses deux fils. Il avait nommé l'aîné Hyrcan, souverain sacrificateur. C'était un caractère faible et sans ambition. Et à la mort d'Alexandra, son cadet Aristobule, agressif et audacieux, s'empara du trône après s'être assuré l'appui d'Antipater, un Édomite qui avait conquis le pouvoir dans son pays. Au cours de cette lutte, la puissance romaine entra en scène. Et c'est là qu'on comprend le rôle des Romains, l'Empire romain. Alors, l'intervention de Pompée. En l'année 65 avant Jésus-Christ, Corus, lieutenant du général romain Pompée, apparut à Damas. Aussitôt, chacun des deux frères, Hyrcan et Aristobule, demanda son aide. Il l'accorda à Aristobule, mais en 63, Pompée lui-même arriva à Jérusalem et reconnut Hyrcan comme souverain légitime, sachant bien qu'un souverain sans ambition serait un pantin commode. Après un siège de 3 mois et le massacre de 12 000 Juifs, la ville fut écrasée, et à la grande horreur de ses habitants. Pompée osa pénétrer dans le Saint des Saints, mais son étonnement fut grand de ne trouver derrière le voile ni statue, ni objet d'adoration, écrit Tacite. Ainsi, malgré les troubles et la corruption de ce siècle, le Saint des Saints rendait toujours témoignage à la réalité de l'adoration spirituelle, comme Dieu l'avait enseigné à son peuple dès le début. Pompée se mit à agir avec la rapidité et l'efficacité caractéristiques des Romains. Hyrcan fut autorisé à conserver sa charge de souverain sacrificateur, mais dut renoncer au titre de roi, remplacé par celui de ethnarque. La Judée perdit toutes ses conquêtes et le nouvel ethnarque régna seulement sur le tout petit royaume de Juda. La Galilée, au nord, et la Samarie, au centre, devinrent des provinces distinctes. L'indépendance juive avait vécu. Quand Pompée regagna la ville impériale pour y célébrer le plus grand triomphe que Rome ait jamais vu parmi les captifs de ce grand cortège, on se montrait Aristobule, autrefois roi des Juifs. Alors, on a Antipater, qui devint procurateur romain. Alors, Hyrcan était ethnarque de Judée. Le pouvoir local était en réalité entre les mains de l'Iduméen Antipater. L'intervention romaine lui ayant été extrêmement profitable, il décida de maintenir des relations d'amitié avec les maîtres du monde d'alors. Ses plans furent brusquement anéantis quand Aristobule et l'un de ses fils, Antigone, s'échappèrent de Rome et reprirent la lutte en Palestine. Peu après, Aristobule eut une fin prématurée, mais Antigone fit une nouvelle tentative pour s'emparer du pouvoir. En 49, la guerre civile éclata entre Pompée et César. Antipater et Hyrcan se mirent du côté de leur protecteur Pompée. Mais quand César défie Pompée à Pharsale Antipater changea le camp et se précipita à Rome pour offrir son amitié et son aide aux vainqueurs. Antipater, devenu citoyen américain, citoyen romain en 47, fut nommé la même année procurateur de Judée, titre bien connu des lecteurs du Nouveau Testament, et plus particulièrement du récit de la crucifixion, où il est question du procurateur romain, Ponce Pilate. Jules César accorda des faveurs aux Juifs, des remises d'impôts, la liberté religieuse et la liberté de reconstruire les murailles de Jérusalem détruites par Pompée. Leurs regrets étaient donc sincères quand ils apprirent sa mort en 44. La nuit suivante, Antipater lui-même fut empoisonné, mais il avait déjà nommé l'un de ses fils, Phasaël, gouverneur de Jérusalem, et un autre, Hérode, gouverneur de la Galilée. Ce nom d'Hérode montre que nous approchons de l'époque de la naissance du Seigneur. Alors, on a les derniers Asmonéens. Alexandre Jeannet avait trois fils, Hyrcan, qui était toujours sacrificateur à Jérusalem, Aristobule, dont le fils Antigone était toujours en liberté, et Alexandre, qui était mort en laissant une fille, Myriam, et un fils nommé lui aussi Aristobule. L'inquiétude générale qui suivit la mort de Jules César avait uni Hérode et Hyrcan. Cette union fut encore resserrée par le mariage d'Hérode et de Myriam. Mais Antigone restait un obstacle aux ambitions de l'Iduméen. Et en 40 avant Christ, il pénétra dans Jérusalem avec une armée de Parthes. Cette conquête fut approuvée par le peuple, qui crut y voir une occasion de se débarrasser de la domination romaine. Hyrcan fut cruellement mutilé et Phasaël se suicida dans sa prison. Quant à Hérode, il parvint à s'échapper avec Myriam et le frère de celle-ci, Aristobule. Antigone devint alors roi et souverain sacrificateur en même temps pour une période aussi courte qu'instable. Pendant ce temps, le subtil Hérode alla tout droit à Rome afin de faire appuyer par Antoine et Octave les prétentions du jeune Aristobule. Mais il fut certainement le premier surpris et ravi d'apprendre que les Romains avaient décidé de le nommer lui-même roi des Juifs. Hérode revint à Jérusalem et en 37, la ville tomba au pouvoir d'une armée romaine et hérodienne. Le règne court et malheureux d'Antigone fut interrompu par le bourreau romain. Ainsi mourut le dernier des princes asmonéens, l'une des grandes familles de toute l'histoire. Il y avait, à vrai dire, encore trois survivants, mais ils devaient disparaître bientôt après. Le vieux Hyrcan, le jeune Aristobule et sa sœur Marianne n'allaient pas tarder à périr, victimes de la méfiance meurtrière d'Hérode. Joseph dit des Asmonéens, « Cette famille fut magnifique et illustre à la fois par la noblesse de ses origines et par les honneurs qui s'attachent au souverain sacrificateur, ainsi que par les glorieuses actions qu'accomplirent leurs ancêtres pour notre temple. Ces hommes perdirent le gouvernement par leur discorde. C'est ainsi que ce gouvernement revint à Hérode, fils d'Antipater, appartenant à une famille d'origine modeste, mais soumis à d'autres rois. » Alors, on a vraiment le nom de Hérode le Grand, qui rebâtit le temple. Un portrait détaillé du roi Hérode dépasserait le cadre de ce bref aperçu historique. Il fut appelé le Grand, et il l'était bien par ses vices, autant par ses vices que par ses qualités personnelles. Les Juifs le haïrent tout au long de son règne. Ils voyaient en lui l'Édomite et l'ami des Romains. De plus, il avait remplacé la dynastie des Asmonéens, beaucoup plus populaire. Les premières années de son règne furent troublées par les perpétuelles intrigues de sa cour et les dernières par celles de ses propres fils. Pris dans ce tourbillon de vils complots, Il tomba d'excès en excès, écartant de son chemin tous ceux qui paraissaient le gêner, y compris Marianne, sa femme favorite. Dans la lutte entre Antoine et Octave pour la conquête du pouvoir, l'amitié d'Hérode pour Antoine le mit du côté des vaincus. Mais après la défaite d'Antoine à Actium en 31, l'Iduméen se hâta une fois de plus d'aller féliciter le vainqueur à gagner son amitié. Pendant tout son règne, Hérode s'efforça de maintenir son royaume dans la paix et la prospérité. Ses dons remarquables d'organisateur ne se montrèrent jamais mieux que dans ses travaux et ses magnifiques bâtiments. Il reconstruit le temple sur une échelle qui éclipsait même la gloire de Salomon. L'existence d'un parti hérodien à l'époque du Nouveau Testament montre que certains juifs appréciaient ses efforts. Il y avait, d'autre part, un parti, les Zélotes, qui allait plus loin que les pharisiens dans leur refus de prêter serment de fidélité ou de payer des impôts à son monarque iduméen ou à César. Les derniers jours d'Hérode furent vraiment tragiques. Son corps était atteint d'une maladie répugnante et son esprit était torturé par des souvenirs coupables et des craintes perpétuelles. Il n'est pas étonnant qu'Hérode ait été alarmé lorsque des mages apparurent dans la capitale de la Judée en demandant « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? » Allait-il être vaincu à la 11e heure, ce tyran qui avait su maintenir son trône des années à travers les écueils de la haine et de l'intrigue? Le massacre des innocents à Bethléem n'était rien pour un politique dont l'une des méthodes pendant tout son règne avait été le meurtre des élites. Nous touchons à la fin de l'histoire de cette période allant de Malachie à Matthieu. Nous voici arrivés au temps d'Hérode, comme on le voit dans Matthieu, chapitre 2, verset 1. Parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Cet Auguste était le même Octave vers lequel Hérode était accouru après la bataille d'Actium pour lui demander son amitié. Ainsi, tandis qu'Hérode, malade, se tordait de douleur dans son palais de Jérusalem, Joseph et Marie se mettaient en route vers le sud, allant de la Galilée vers Bethléem, la ville de David. Alors Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Application, une seule. Nous devons faire un effort pour comprendre les événements qui se sont déroulés durant les 400 ans de silence entre Malachie et la première venue du Christ. Notre compréhension des circonstances sociales, politiques, culturelles, religieuses et économiques des Juifs de cette époque nous aidera à mieux comprendre comment Dieu avait préparé l'arrivée du Messie. Louons le Seigneur pour sa sagesse dans la préparation des circonstances entourant la première venue du Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen.